Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir M. Daniel Benfrèche, qui est professeur d'histoire et président de la LICRA Nîmes. Rappelons que la LICRA est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. La LICRA est une association française non gouvernementale luttant contre le racisme et l'antisémitisme en France, mais également sur le plan international. Elle a été fondée en 1929 sous le nom de Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA. Son siège est situé à Paris. Elle est dirigée par Mario Stasi, un avocat français titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit communautaire obtenu en 1991. Il a été élu en 2017 à la tête du bureau exécutif. Il faut souligner, c'est important, que maître Mario Stasi est catholique. Il est le premier président non-juif de la LICRA. Précisons aussi que vous êtes très engagé au cœur de l'Université populaire des religions à Nîmes. Bonjour à vous, professeur Benfrèche. Bienvenue avec nous aujourd'hui dans l'émission « Votre santé, un trésor ».
Bonjour à vous également. Merci de m'inviter dans votre émission pour converser un peu. Et il est vrai que, comment dire, je voudrais peut-être un peu préciser, j'étais... Jusqu'à très récemment président de la LICRA, mais mes fonctions professionnelles et familiales m'ont obligé un peu à m'éloigner de Nîmes. Et donc, j'ai passé la main au président d'honneur, qui est Patrice Bigoret, que vous connaissez peut-être.
Oui. C'est vous qui me l'avez présenté.
Voilà, qui reprend le flambeau de la LICRA sur Nîmes. Bon... je pense qu'il va avoir dans l'idée, donc soit il maintient et il reste au grand poste, soit l'idée c'est aussi de renouveler et de rajeunir un peu les, si je peux m'exprimer ainsi,
les membres actifs quoi,
les membres actifs quoi.
Voilà. Alors,
mais il y a plein de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire, surtout en ce moment. En plus des précisions que vous venez de nous donner, pourriez-vous parachever cette présentation que j'ai faite, car vous avez de multiples compétences et vous faites partie de nombreuses structures. Alors, en premier lieu, vous êtes professeur de quoi et dans quelle structure?
Je suis professeur d'histoire géographie, dans le secondaire.
Oui.
Donc je suis bientôt en fin de carrière, il me reste grosso modo une année.
Oui, vous allez être jeune retraité.
Voilà, avant d'être jeune retraité, j'ai un doctorat de géographie et d'aménagement du territoire. Je me suis très tôt intéressé à la réalité israélienne et j'ai travaillé sur la problématique de l'eau et des politiques d'aménagement du territoire en Israël. Voilà, c'est un doctorat. Alors,
j'ai eu l'occasion de lire sur Facebook un commentaire que vous avez fait sur la création de l'État d'Israël et la notion, on ne va pas en parler aujourd'hui, quoi, mais la notion de Palestine, et ça c'était intéressant. Et j'encourage nos auditeurs à retrouver sur Facebook ce que vous avez écrit. Je crois que c'est intéressant. Alors en premier lieu, ce n'est pas pour parler d'Israël et des problèmes actuels que je vous ai invité, mais pour parler de la fin de vie dans le judaïsme. En premier lieu, j'aurais aimé que vous nous traciez, si vous le permettez, le paysage de la communauté juive à Nîmes pour qu'on la connaisse mieux.
Alors, je vais quand même revenir un peu sur les événements récents, parce qu'il y a une profonde inquiétude quand
même. Oui, mais justement, je pense que la communauté doit être inquiète à Nîmes aussi.
À Nîmes et en général, face à la flambée de l'antisémitisme, pour reprendre les mots de certains, on dirait que le fleuve de l'antisémitisme est en crue. On se rappelle pour les quelques derniers mois, les 2-3 mois, il y a eu une agression à Orléans de Rabin, une autre à Neuilly, une autre à Levallois-Perret. Toutes ces personnes, c'était des rabbins, des croix gammées, des slogans à Paris, à Rouen, et même on en a eu au Vigan l'an passé, où un tag de croix gammée et d'antisémitisme, des personnes qui sont agressées, comme aussi on a eu dans la région à Anduze, un religieux qui se promenait, qui était connu et qui s'est fait agresser. Donc il y a une inquiétude grandissante des Juifs de France qui s'interrogent sur leur avenir dans le pays et sur leur sort des Juifs de France et en France. Et pourtant, ils ont une présence très ancienne dans le pays qui remonte au moins à l'Antiquité romaine, puisque
L'Antiquité,
pour
oui.
en venir à Nîmes, c'est une ancienne communauté. On pense que certainement des légionnaires romains déjà à l'époque, eh bien, qui étaient engagés dans la Légion et qui étaient juifs, eh bien, ont certainement mis leurs traces dans la région de Nîmes. Mais au Moyen Âge également, on a des traces de la présence de la communauté juive de Nîmes qui a vécu malheureusement au rythme des expulsions et des
Oui, c'est ça.
retours. Hein,
Et la question qu'on se pose, il y a combien la communauté juive française comprend combien de personnes?
La communauté juive de France, elle comprend, alors certains disent 500 000, moi j'aurais
Voilà.
plutôt tendance à dire 400 000 à
Parce que moi, j'ai
400 000
lu
personnes.
le chiffre de 600 000. Alors,
600 000, oui, c'était il y a, on peut dire qu'il y a 10 ans,
voilà, mais
il y a
maintenant,
10,
beaucoup
15
sont
ans,
partis
on
en
était,
Israël.
et beaucoup sont partis soit en Israël, soit aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, ça c'est clair, et on est à l'heure actuelle certainement aux alentours de 400 000.
400 000.
400 000 personnes, hein. C'est un chiffre très approximatif. Et à Nîmes, on a entre 200 et 300 familles à Nîmes et dans le Gard, hein, ce qui fait grosso modo en moyenne 1 000 à 1 200 personnes, quoi. Donc
Mais c'est
c'est
pas
pas
une
énorme.
grosse, grosse, grosse
Ça
communauté.
représente à peine entre 0,3 et 0,5 % de la population totale,
C'est
hein,
d'autant
parce
plus
que...
important de protéger un petit nombre, parce qu'évidemment,
Voilà,
un petit nombre doit
exactement,
être protégé.
exactement.
Alors,
Et
Abin,
c'était...
oui.
Oui, pardon. Oui, je vous écoute. Oui.
Alors, afin de bien informer nos auditeurs un peu, expliquez-nous comment les Juifs voient et vivent le passage de la mort. Est-ce que les textes auxquels se réfère le judaïsme l'évoquent?
Alors, oui. Il y a beaucoup de textes qui définissent la mort dans le judaïsme. Et on peut dire qu'on a une première définition de la mort dans le Talmud, c'est-à-dire dans les commentaires de la Torah, qui étaient des commentaires oraux, qui s'appelaient la Mishnah, puis qui ensuite, il y a eu des discussions, ça a été mis par écrit au 1er siècle, hein, par un rabbin et son académie qui s'appelait Rabbi Judah Anassi, qui a été surnommé le prince, et il a codifié tout ça par écrit, en tout cas ce qu'on appelle la Mishnah, qui ensuite a donné lieu à des commentaires et des commentaires qui ont donné lieu à ce qui s'appelle la Gemara. Hein, et Mishnah et Gemara forment le Talmud. Alors il y a eu deux Talmuds, un Talmud qui est le Talmud de Jérusalem, qui a été compilé à peu près vers le deuxième, entre le premier et le deuxième, troisième siècle avant et après l'ère courante, l'ère chrétienne, et puis le Talmud de Babylone qui a été rédigé, dont la rédaction a pris fin, grosso modo, vers le 6e siècle.
Alors,
Alors,
pour un fidèle, voilà, pour un fidèle juif,
Voilà,
comment se passe
oui.
la mort, le moment de mourir?
Alors, donc, dans le Talmud de Babylone, dans un des traités de ce Talmud, parce qu'il y a plusieurs traités, il y a une énumération des possibilités où l'on peut rompre le Shabbat. Il y a des règles pour le Shabbat qu'on doit appliquer, mais on peut les rompre quand quelqu'un est en danger et que la vie humaine est en danger et qu'elle suspend les règles. Il y a un exemple qui est pris d'une maison qui s'effondre. Si quelqu'un dont on sait alors s'il est vivant ou mort, dont on ne sait, pardon, s'il est vivant ou mort, il y a une obligation de sonder les décombres pour le sortir, c'est-à-dire de rompre toutes les règles du Shabbat. Et le traité nous apprend que s'il est vivant, il faut employer tous les moyens pour le sortir de
Pour le
ses amarres
sortir, oui.
qui lui sont tombés dessus. Mais
D'accord.
plus exactement, la mort pour le judaïsme est établie quand la respiration spontanée cesse, ce qui inclut l'arrêt des battements cardiaques. Cependant, pour déclarer la personne morte, une attente est nécessaire de crainte que la personne ne soit évanouie,
Oui,
finalement. De plus,
comme.
si le moindre signe de vie est remarqué dans les membres, en dehors du cœur et des poumons, on ne peut déclarer la personne morte.
D'accord.
Mais finalement, eh bien, le, 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 La mort, c'est la cessation de la
De la
respiration
respiration, du souffle en fait, hein, du
préalablement
souffle.
d'attente, parce que ça suppose que les fonctions cardiaques et même les fonctions liées au cerveau, eh bien,
Ne fonctionne plus, oui. Il n'y a plus
ne fonctionnent
d'oxygénation pour la
plus.
respiration.
Il y a eu pas mal de discussions
Oui,
entre
bah, je veux dire, c'est comme en médecine, ça.
Et voilà, il y a eu pas mal de discussions entre les rabbins, en particulier à l'époque de Maïmonide au Moyen-Âge, où certains étaient partisans de ce que disait Galien, je crois que c'était la
Ouais, voilà.
respiration,
La respiration, le pneuma, oui.
et d'autres d'Aristote qui disaient c'était l'arrêt du cœur.
Ouais.
Bon, donc finalement,
Mais Aristote, enfin, une précision, Aristote, en fait, les Grecs pensaient que l'âme était dans le cœur, donc si le cœur battait
Oui,
plus, l'âme n'était plus
voilà.
là, donc la personne était morte. Alors, comment une ou un juif au cœur de sa religion accompagne les mourants, les personnes en fin de vie?
Alors, visiter un malade, et à plus forte raison un mourant, c'est un commandement.
D'accord.
C'est carrément une obligation. Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des Juges, et il traite de ses devoirs de visiter un mourant comme des actes d'amour, et même pour un malade, donc c'est un acte d'amour, et à plus forte raison, donc pour un mourant. Donc, aller au chevet de quelqu'un qui est en train de mourir, c'est un acte d'amour, et c'était essentiel pour le judaïsme et
D'accord.
pour la Torah.
Donc,
Donc
l'accompagnement
l'accompagnement de fin de vie
une
une
importance
importance.
fondamentale et légale, si j'ose dire. Hein.
Voilà.
Alors, je vous invite dans votre santé un trésor afin que vous exprimiez sur les nouvelles dispositions législatives concernant ce que l'on nomme la fin de vie, qui risque de modifier la nouvelle législation suite à la proposition de loi de M. Falorni. Alors, qu'en pensez-vous?
Alors, ça, c'est grand débat, parce que finalement, le principe qui prime dans le judaïsme, c'est le principe de vie. Hein. Et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la personne
Bien sûr.
dont la maison s'est effondrée et pour laquelle on doit enfreindre toutes les règles du Shabbat pour aller la sauver, pour la sauver de ses décombres, montre que finalement, il y a une primauté de la vie par rapport à la mort. Et cette question de la fin de vie pose finalement pose la question de l'euthanasie.
Bien sûr.
Hein. Les techniques médicales se perfectionnent et permettent de prolonger la durée de vie, mais pas forcément sa qualité. Ainsi, les situations tragiques où la mort apparaît comme la seule solution satisfaisante ou le plus doux des remèdes, finalement, se multiplient. Et c'est ça l'interrogation. Le droit, donc ce droit à l'euthanasie ou dénommé la fin de vie, est donc revendiqué de plus en plus souvent au nom de la liberté, du respect de la personne. Il est donc revendiqué une législation, finalement, on peut dire, du meurtre par amour. Quelle est la position du judaïsme et de la Torah dans ce domaine? Et c'est ça la question à laquelle finalement le judaïsme est confronté de nos jours et va essayer d'apporter sa réponse. Hein. Donc, une des réponses qui est donnée, c'est qu'il est interdit de faire quoi que ce soit pour hâter la mort. Et même si nous voyons que la personne souffre beaucoup dans son agonie et que la mort lui serait douce, il nous est néanmoins défendu de faire quoi que ce soit pour hâter la mort. Le monde est, puisque par principe religieux de la définition du judaïsme, le monde et ce qu'il contient appartiennent à Dieu et telle est sa volonté. Voilà finalement
Donc, la réponse, c'est que le judaïsme est contre l'euthanasie
une des
active,
réponses
active.
du judaïsme.
D'accord.
Hein, et ici, il y a un avis qui peut être unanime, mais
D'accord.
ça n'empêche pas les discussions.
Oui, bien
C'est ça.
sûr. Puis après, il y a le problème médical et tout. Mais en fait, vous avez répondu, bon, le judaïsme est quand même contre l'euthanasie active telle qu'on la conçoit actuellement en tant qu'euthanasie active. Et puis, on ne parle pas de
Oui,
l'acharnement
oui.
thérapeutique et des choses. Ma question était celle-là. Eh bien, je vous propose une trêve musicale avec une musique
D'accord.
traditionnelle klezmer, Tatar Taz par les Flamands Noirs et Vasilena. Zerafimoza, excusez ma prononciation
Oui,
parce
oui,
que
oui.
c'est du
Très
slave, le
bien.
skez mec d'Europe centrale et de l'Est, ce qui est une tradition musicale instrumentale des Juifs askénazes. Elle s'est développée à partir du XVe siècle et ses origines, bien que nous ne possédions pas de sources documentées d'époque, seraient les musiques du Moyen Âge, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, slave et tzigane. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le professeur Daniel Benfrège et nous évoquons avec lui la fin de vie. Êtes-vous d'accord ou en désaccord en tant que responsable religieux, plutôt en tant que fidèle, sur ce que les représentants des élus du peuple proposent actuellement sur la fin de vie et la proposition de loi Falorni?
Eh bien, comme je vous le disais, bon, il y a la position finalement du judaïsme qui interdit de l'euthanasie dite active, mais par contre, il est aussi interdit de se désintéresser de la souffrance humaine. La miséricorde, la pitié sont des vertus décrites dans le judaïsme, la Torah et le Talmud comme spécifiques d'Israël. Hein, et donc, si on se penche un peu sur certains penseurs qui se sont penchés, rabbins qui se sont penchés sur le droit hébraïque, montre à quel point il est sensible à la souffrance, avec une notion qui est citée dans le Talmud de belle mort. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, choisis-lui une belle mort. Donc c'est un peu compliqué. Finalement,
c'est ce que veut dire euthanasie. Euthanasie, ça veut dire la belle mort, la oui. mort belle, quoi. Oui. Hein, comme oui. Le Eugénie, c'est le E, hein, c'est la belle mort. Mais en fait, ça a été
oui, voilà.
transgressé.
Donc on peut dire qu'il y a un conflit d'intérêts qui touche les points de sensibilité juive, le souci explicite du judaïsme d'atténuer la souffrance humaine qui doit être pesée face à la sainteté de la vie elle-même. Voilà, d'où le fait que il y a une interdiction de provoquer la mort. Hein, parce que c'est comme si on était considéré comme soi-même un meurtrier, mais le conflit d'intérêts, c'est atténuer la souffrance, oui, il le faut. Hein, et donc, il y a une primauté qui est accordée à la vie sur la souffrance, même s'il faut l'atténuer quand même. Voilà.
D'accord,
donc c'est tout en nuance.
Le judaïsme est tout à fait en adéquation avec la philosophie de la culture soins palliatifs, c'est-à-dire accompagner jusqu'au bout la vie en essayant de préserver une qualité de vie, quoi. Hein.
Oui,
voilà,
absolument.
Par l'accompagnement, puisque vous nous avez dit qu'il y a un devoir légal d'accompagner les malades, mais les mourants sont des malades aussi. Donc le fidèle doit aller voir les gens malades, doit s'en occuper. Et dans la vision thérapeutique du judaïsme, eh bien, il ne faut pas s'acharner dans le traitement parce que ce n'est pas bon, puisque ça peut engendrer des souffrances, donc c'est interdit. Mais comment soigner tout ce qui est souffrance, douleur et les souffrances psychologiques. Et alors justement, les Juifs se situent comment par rapport aux soins palliatifs? Est-ce qu'il y a des associations, des structures pour accompagner, en dehors des médecins? Je ne parle pas des médecins juifs. Bon, j'ai des confrères et amis qui sont médecins juifs, qui sont médecins. Donc nous, on a une déontologie jusqu'à présent qui était en rapport avec ce que vous disiez. Ça a tendance un peu à changer. Mais comment se situe le fidèle? Est-ce qu'il y a des associations pour la pratique des soins palliatifs?
Il y a des associations de charité, il y a des associations normalement de personnes qui vont visiter les malades. Hein. Alors ça existe dans les communautés un peu plus étoffées où il y a plus de réseaux, où il y a des gens qui vont les visiter. Ça fait partie normalement aussi des obligations, je dis normalement parce que je ne sais pas comment il fait d'un rabbin, hein, d'aller visiter les malades.
Oui. Il y a dans la mission du rabbin, excusez-moi, non, dans la mission du rabbin.
À une époque, il y avait à Nîmes, il y avait des aumôniers, hein, aumôniers de l'armée, qui aussi allaient dans les hôpitaux visiter les malades.
Actuellement, je ne sais pas s'il en existe. À ma connaissance, non, mais je peux me tromper.
Aujourd'hui, à Nîmes, non, il n'y en a pas. Mais dans d'autres villes, dans les grandes villes comme Lyon, Marseille, Montpellier, je ne sais pas, mais ça, et Paris, ça c'est sûr, voire même Strasbourg et Lille, il y a de ces structures-là avec même des maisons de retraite pour ceux qui veulent finalement vivre dans un environnement cachère et juif,
Oui.
qui sont des sortes des EHPAD, hein, tout
Oui,
simplement.
des EHPAD spécialisés avec une vie
Et qui
particulière.
sont, il y a cet accompagnement qui existe.
D'accord.
Hein.
Et alors, en ce qui concerne la douleur, évidemment, le judaïsme est contre le fait de laisser les gens souffrir et
Contre le
tout
fait,
voilà, et donc
oui.
tout doit
Oui.
être mis en œuvre pour soulager les souffrances physiques, hein, et les souffrances morales, et les souffrances spirituelles et religieuses aussi.
D'accord, oui, absolument.
Voilà. Alors,
Donc...
est-ce qu'il y a des pratiques religieuses particulières pour accompagner des prières ou des j'emploie
Alors,
le terme
bon,
rituel, mais peut-être qu'il n'est pas il est pas adéquat, mais est-ce qu'il y a des pratiques particulières?
Oui, on peut accompagner le défunt, c'est l'entourer, hein, l'entourer, essayer d'être bon. Ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, parce que le problème de la qualité de vie est difficilement quantifiable aussi. Hein, donc il y a pas une il y a une ritualisation au moment où la personne est décédée.
Alors oui,
Hein,
qu'est-ce que
doit
font les
ou
religieux, les religieux, enfin, ou les fidèles une fois que la personne ne respire plus, donc est considérée comme morte? Est-ce qu'il y a, quelle est
Une fois qu'il est
la
considéré
procédure?
comme mort, il doit être normalement bon. Maintenant, il y a un délai légal de 24 heures
Oui,
à
parce qu'il y a,
attendre,
oui,
hein,
même au
mais
niveau
quand
du.
la personne est considérée comme morte, bien, il y a une veillée,
Oui.
hein, il y a une veillée qui est faite autour du défunt, et il faut finalement, il faut l'enterrer le plus rapidement possible pour permettre que le deuil des proches et de la famille se fasse. Parce que tant que la personne n'est pas considérée comme comment dire enterrée,
Enterré,
elle n'est pas la famille ne peut pas prendre le deuil.
oui.
Elle n'est pas considérée comme en deuil. Puisqu'il y a la croyance en la présence de l'âme,
Oui.
il est toujours là. Il n'est pas dans
Oui,
une notion
il est
où
toujours
on peut
présent, enfin,
travailler
son
le deuil.
corps est toujours présent, donc
C'est pour ça,
son âme peut.
ça me permet de faire une petite. Vous allez me dire que je vais aller sur l'actualité. Hein, c'est pour ça que par exemple, les Juifs, tant qu'une personne qui est disparue,
Oui.
hein, qui est disparue, qui a été prise
En otage.
malheureusement l'actualité en otage,
Oui, en
eh
otage,
bien.
disons-le.
Tant qu'on ne sait pas si
Oui.
elle est
Enterrés,
morte ou vivante
ils peuvent pas être en dehors.
et qu'on n'a pas récupéré son corps pour l'enterrer, eh bien le deuil n'est pas possible, et donc les lois du deuil et les obligations en particulier pour une femme ou même pour des enfants ne peuvent pas s'appliquer, et ça c'est un gros
Oui,
c'est
c'est une
une grosse
souffrance religieuse qu'on ne connaît pas, nous, parce que
Et voilà, c'est une souffrance religieuse.
en Occident, bon, dans le monde chrétien, quoi, hein,
Oui.
le deuil commence au moment de la mort. Mais pour vous, il faut que la personne soit enterrée pour que le deuil religieux commence. Donc, est évident que les otages qui ont été pris le 7
Voilà.
octobre, si on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, la famille est dans une souffrance religieuse et rituelle qui est quand même très
Exactement.
importante. Je pense que c'est important que vous souligniez cet élément, parce qu'évidemment, ça passe complètement à côté des gens.
Exactement.
Alors,
Exactement.
bon, pour résumer ce qu'on a dit, mais vous en avez dit beaucoup, puis vous nous avez informés sur des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je voulais absolument que vous invitiez. Quelle serait la meilleure façon d'aborder et de vivre la fin de vie et son accompagnement pour les Juifs? C'est en fait le soin palliatif.
Ce serait peut-être le soin palliatif, mais également, bon, finalement, le médecin a le droit et le devoir de guérir, comme
Oui, bien
l'infirmier
sûr,
permet.
oui.
Il est au service de la vie. Donc, et la mort, tout à l'heure, je parlais de belle mort, hein, dont on a parlé, dont on a dit que l'euthanasie était synonyme. Donc, la mort douce ou la belle mort ne relève pas de sa compétence, ni
Oui, c'est ça,
de
c'est ça, c'est
l'action
pas.
dont la Torah et la loi l'investit. Donc,
Pour
il est
résumer, parce
important.
que ça m'intéresse en tant que médecin, le
Voilà.
médecin juif a l'interdiction morale, quand il pratique évidemment, de
Voilà.
pratiquer l'euthanasie, quoi.
Donc, alors, les solutions, finalement, on serait tenté aujourd'hui d'en appeler à des solutions un peu désespérées. Et donc il y a cet absolu des principes de
Que
ce
vous avez
principe
cité.
moral et du respect de la vie humaine, et parce que le judaïsme se pose comme une doctrine de vie,
Et pas une doctrine de
et
mort.
donc il veut être un message d'optimisme, de courage et de foi et d'espoir en celui qui donne la vie, c'est-à-dire le Créateur.
Très
Donc
bien.
jusqu'au bout, on
Mais
a espoir.
c'est bien que vous finissiez par le Créateur et d'évoquer Dieu. Eh bien, cher Daniel Benfresh, je vous remercie au nom de nos auditeurs de nous avoir éclairés sur ce que propose le judaïsme et son éthique sur la fin de vie. Merci infiniment à vous. Et j'espère
Ben
que la
merci à
nouvelle
vous.
Université populaire des religions de Nîmes, dont vous êtes membre très actif, un administrateur, abordera ce type de réflexion et fera partager l'éthique du judaïsme. J'ai l'habitude de clore cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Alors, je vous demande, est-ce que vous avez un livre à citer qui vous a plu ou sur le sujet?
Il y a un livre, j'ai un livre et un article, j'ai le du professeur Fred Rosner, même s'il date un peu, il est de la fin du milieu des années 90. C'est La médecine tirée du Mishneh Torah de
Ah, ça, c'est
Maïmonide,
vrai, il faut le lire, oui.
hein, qui prend un peu en différents points de la vie de l'homme et de sa santé. Et puis un article également du rabbin Michel Guggenheim qui s'appelle Euthanasie et acharnement thérapeutique. Voilà, donc du consistoire central qu'on peut trouver sur consistoire.org, euthanasie et acharnement thérapeutique, donc par le grand rabbin Michel Guggenheim, donc qui sont des documents intéressants, et également par un autre rabbin qui est peut-être parent de Monsieur Guggenheim, qui s'appelle aussi Guggenheim, qui est Le judaïsme dans la vie quotidienne, études et responsa, et qui date de 2002.
Eh bien, je vous
Voilà un
remercie
peu.
beaucoup. Merci à vous, professeur Benfredge, et à très bientôt.
Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. J'étais très heureux de partager avec vous. Voilà, à
Merci.
bientôt.
Je remercie Louis à la technique et Chalène au visuel. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.